France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore tel une révélation? Philosophes, sociologues, historiens et historiennes aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler. Aujourd'hui, vous allez peut-être deviner de qui il s'agit. Il sera question d'inventaire, de contraintes, d'absence, mais aussi de vitalité, de liberté et de puzzle, ou plutôt de puzzle.
C'est l'histoire d'un homme qui résout des puzzles, et d'un homme qui les fabrique. Et c'est aussi, le livre entier est fait comme un puzzle. Voilà la maison. Alors on sait qu'ici, il y a une chambre dans laquelle vit une vieille femme. Ici, une autre chambre où vit un étudiant. Ici, une étudiante. Ici, vit dans une petite chambre le peintre qui a peint toute la maison et qui s'est représenté dans son coin comme dans les tableaux du Moyen-Âge. Ici, il y a une pièce qui était occupée par le monsieur qui fabriquait les puzzles. Ici, il y a un grand appartement occupé par le monsieur qui résout les puzzles. Et en fait, on s'apercevra que toute l'histoire n'est que l'histoire de ces deux personnages, de leur relation. Et c'est seulement dans les dernières pages du livre qu'on aura cette espèce d'image complète qui expliquera un peu pourquoi le livre a été écrit, ce qu'il représente pour moi, qui expliquera son titre, qui expliquera...
Et vous savez déjà ce que ça représentera pour vous? Et puis d'abord son titre.
Il s'appelle « La vie, mode d'emploi ». Ce qu'il représente pour moi, au niveau de ce que je voudrais arriver à faire, c'est prendre à bras le corps une matière romanesque et faire un livre gros.
Bonjour Gwenaëlle Aubry.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe et écrivaine, directrice de recherche en philosophie au CNRS. Vient de paraître aux éditions Gallimard votre roman Zone, Base, Vie, qui est un hommage à Georges Perec, qu'on vient de l'entendre, et à la vie, mode d'emploi. On peut peut-être rebondir sur deux choses dans cet archive de Georges Perec qui date de 1976. Déjà, d'une part, il dit puzzle. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un dire puzzle. Et surtout le fait que la vie mode d'emploi, pour lui, est d'abord un ouvrage qui doit être gros.
Oui, ça m'a frappé aussi. Je ne connaissais pas cette archive, ce projet de démesure. Mais je crois que c'est ça aussi qui saisit. Je me souviens en tout cas que c'est ça qui m'a saisi. Dès ma première lecture, à l'adolescence, j'ai lu ce livre comme on lit à cet âge-là, à plat ventre sur mon lit, sans pouvoir le lâcher. Mais je me souviens d'avoir été attrapée par le titre et par le sous-titre « roman au pluriel ». Et je me souviens de m'être dit « tiens, on a le droit d'écrire un roman au pluriel ». Et cette impression-là, en fait, ne m'a pas lâchée. Je la retrouve quand je relis ce texte. Cette idée qu'on a le droit de faire ça. On a le droit de jouer avec le genre romanesque tout en le portant à sa pleine mesure ou à sa pleine démesure. On a le droit de faire tenir mille et une histoires entre les pages d'un livre, mille et une vies, mille et une nuits entre les murs d'un immeuble. On peut jouer comme ça, et avec tout ça, insérer des illustrations, des facsimilés, des recettes de cuisine,
un plan,
des partitions, sans compter, bien sûr, mais ça, je l'ignorais complètement à la première lecture, et on n'a pas besoin de le savoir, sans compter, oui, c'est ce cahier de charges, de contraintes extraordinairement contraignant, mais dont l'effet est avant tout... celui d'une liberté, d'un foisonnement, et d'une liberté qui, parce qu'elle est gagée sur une structure, n'est jamais arbitraire, n'est jamais vaine. Une liberté nécessaire, d'une certaine façon.
Mais est-ce que vous n'avez pas été désarçonné? Vous l'avez dit, ce qui vous a frappé, c'est on a le droit de faire ça. Mais du point de vue presque de la création, mais est-ce que vous n'avez pas été désarçonné comme moi je l'ai été? Parce que moi aussi, son titre m'a complètement attirée par le fait que de la vie, il n'y avait pas de mode d'emploi. Oui, je m'attendais presque, je pense naïvement, à un texte de développement personnel, voyez-vous.
Non, ça n'est évidemment pas l'objet du livre. Non, il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a... Enfin, peut-être que le mode d'emploi, c'est de l'écrire, et l'écrivant l'a démultiplié, l'a relancé. Enfin, ce qui est très, très beau chez Perec, c'est ce mouvement... constant, en fait, de relance vitale. Et c'est aussi cette énergie-là qu'on sent à même ces textes, la vie, mode d'emploi et les autres également.
Donc il n'y a pas de mode d'emploi de la vie dans ce texte. Qu'est-ce qui a continué à vous hanter avec celui-ci ? Parce que des chocs à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, on en a même encore après, évidemment, des chocs littéraires. Qu'est-ce qui fait que celui-ci est resté et peut-être pas d'autres ?
Alors d'autres sont restés également, mais dans le cas de Pérec, oui, je pourrais en citer plusieurs. Enfin, Proust ou Musil sont très très importants, ouais, pour moi. La poésie et Michaud, Sylvia Plath, Rimbaud, Rilke sont fondamentaux. Bon,
alors c'est vrai qu'avec
Pérec, il se trouve que je joue. Voilà, c'est vrai qu'il est présent depuis longtemps dans mon travail d'une façon qui est très active, très vivante. Zone Basse Vie joue explicitement avec lui, mais personne portait déjà en épigraphe un extrait de W ou un souvenir d'enfance.
Qui est votre roman qui est paru en 2009.
Oui, c'est ça. Et puis avec Pérec, il se passe quelque chose d'étrange, qui est que par-delà ou à travers ses textes, ce qui de lui à la fois s'y cache et s'y dévoile, j'éprouve une profonde tendresse, en fait, pour la personne qu'il est. Et je ne suis pas la seule. Je crois que ça dit vraiment quelque chose de la relation qu'il instaure par-delà la mort avec ses lecteurs, ses lectrices, qu'ils soient écrivains, écrivaines ou pas. Je pense par exemple à un très beau texte de Roberto Bolaño, que j'aime énormément aussi, de la même façon. Un très beau texte où Bolaño raconte qu'il a rêvé de Pérec enfant. Et Bolaño écrit, je cite de mémoire, « J'ai rêvé que Georges Pérec avait 3 ans, je le prenais dans mes bras, je l'embrassais, je lui disais qu'il était un enfant magnifique. » Rêver d'un écrivain, ça peut arriver, mais rêver d'un écrivain enfant, c'est quand même une chose étrange. Et je crois qu'effectivement, avec Pérec, c'est l'enfance qui vous visite en rêve. C'est l'enfance et ce sont différents enfants. C'est l'enfant triste, l'enfant orphelin dont la mère est morte à Auschwitz, et c'est aussi l'enfant joueur, l'enfant triomphant, l'enfant magnifique, comme dit Bolaño.
Est-ce qu'on peut avoir un texte, un auteur qui nous hante sans l'aimer ou sans aimer sa personne? Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose de...
Oui,
est fondamental, finalement?
Il y a de très grands écrivains qu'on aime, qu'on admire, qu'on lit et relit et qui vous demeurent très lointains, presque écrasants. Enfin, Faulkner, par exemple, j'ai une admiration immense pour Faulkner, mais il m'est lointain, très lointain. Pérec, c'est, une fois de plus, c'est autre chose. Et alors, vous voyez, ça n'est pas non plus un modèle, une référence. Zone Basse Vie n'est pas vraiment un hommage.
Voilà, j'ai dit hommage, mais c'est peut-être pas le bon terme.
Non, c'est vraiment... une fois de plus, c'est un compagnon de jeu. Voilà. Et je n'ai pas cherché à réécrire la vie mode d'emploi, ce qui aurait été à la fois prétentieux et vain.
C'est ce que j'allais vous dire. J'allais dire inutile. Tout
oui,
est inutile. Déjà, en fait.
Oui, non, ça n'aurait aucun intérêt. L'idée n'était pas, si vous voulez, de m'amuser avec l'histoire littéraire. Mmh, mmh. L'idée était de m'emparer de la grande histoire, d'un moment... que je pense être un point de bascule de notre histoire collective, à savoir la pandémie. Pas juste le confinement, mais la pandémie dans sa dimension de crise totale, de crise mondiale, qui a bouleversé notre rapport au corps, aux autres, à l'espace, au temps, au pouvoir, au langage. Bon, j'avais besoin de m'emparer de ça. J'ai su tout de suite que j'allais écrire sur ça, parce qu'il se trouve que, depuis toujours, mon travail est gagé sur l'événement. Sur ce qui casse l'histoire, sur ce qui casse le temps, sur ce qui, du même coup, me menace de silence, de sidération. Et le roman est pour moi un instrument de survie, au sens où c'est un instrument de relance, justement, vitale. C'est ce qui me permet de retrouver le désir par-delà la sidération. Là, j'avais plus que jamais besoin, vous voyez, de retrouver du temps par-delà l'avenir interdit, retrouver de l'espace par-delà l'enfermement dans lequel nous étions. J'en avais besoin, mais je ne trouvais pas la forme. Or, j'ai besoin, pour chaque nouveau roman, d'une forme nouvelle. Et de surcroît, pour tout arranger, à cette période-là, je ne croyais plus vraiment en la fiction, à la fois parce que le réel délirait et parce que j'avais l'impression qu'il dupliquait, justement, qu'il calquait une mauvaise fiction, une dystopie que je n'arrivais pas à identifier. Donc, ce qui a été premier, ça n'a pas été Pérec. C'était ce besoin, le besoin de m'emparer de cette réalité-là, de cette réalité collective-là. Et puis, en fait, le titre. Le titre, c'est-à-dire ces trois mots-là, Zone Basse Vie, que j'ai lu un jour en passant devant un chantier en Normandie, et dont la sonorité, la juxtaposition, sans que je sache vraiment pourquoi, condensait mon expérience de la pandémie. Ces trois mots ont appelé la forme d'un immeuble, la forme d'un immeuble et d'un chantier qui se construit en même temps que le roman. Et à son tour, c'est cette forme de l'immeuble qui, évidemment, a convoqué Pérec. Donc là, le jeu a commencé. J'ai construit mon immeuble dans une rue fictive, qui, dans une grande ville, qui peut être Paris, mais pas seulement, au 11 bis rue Vinclair. Donc 11 bis, en, là pour le coup, oui, en hommage au 11 rue Simon Crubelier de la ville
mode d'emploi. De
voilà.
La ville mode d'emploi.
Rue Vinclair, en hommage au Gaspard Vinclair de Pérec,
qui est un des héros
récurrent. Oui, oui, puis qui est en fait présent dans trois de ses livres, dont La vie mode d'emploi. J'ai déménagé des objets, même un chat de l'immeuble de Pérec.
Vous avez picoré presque.
Oui, c'est, voilà, picoré, j'aime bien ce terme, parce qu'en fait, le jeu que j'ai joué est léger, vous voyez. J'avais pas un cahier de décharges contraignant, et voilà, lourd comme était celui de Pérec, mais surtout dans la mesure où je cherchais à m'emparer d'une réalité qui bien sûr n'était pas la sienne, j'ai eu besoin d'inventer aussi d'autres règles du jeu, de déterminer aussi mon propre jeu. Une chose évidente, qui est que les habitants de l'immeuble de la vie mode d'emploi, eh bien, ne sont pas confinés.
Chez Pérec, voilà, y a pas d'événement. C'est presque une vie. Alors, mais oui, mais c'est une vie banale. Ce sont des micro événements presque. Il y a pas de pandémie qui les réunit.
Alors, il se passe plein. Il y a quand même. Non, il y a quand même des. Il y a tout dans ce. Une fois de plus, dans ce roman en pluriel, il y a des épopées, il y a des polars, il y a plein de choses. Mais en tout cas, dans l'immeuble, on se croise. On se croise dans l'escalier, ouais. On se croise dans les parties communes. Or, nous, je dis nous, parce que c'était une fois de plus une expérience collective, nous n'avions plus rien de commun. La seule chose que nous avions en commun à cette période-là, c'était d'être séparés. C'était d'être
de ne plus être en commun, justement.
Exactement, c'est ça. On était plongés dans le Covid, dans le vide commun. Bon, à partir de là, il fallait que j'invente, alors non seulement un principe de circulation entre les différents étages, entre les différents appartements, les différentes chambres, mais un principe de liaison entre les personnages. Un principe de liaison que je fais varier de saison en saison, puisque le roman se construit au fil des trois saisons de confinement, déconfinement. Donc il y avait cette règle-là, ce jeu-là. Je voulais aussi que mes personnages ne puissent dire « je » qu'à la toute fin du roman, c'est-à-dire qu'une fois retrouvé le dehors, c'est-à-dire au contraire de certains, vous voyez, je me suis un peu étonnée de ça, au contraire de certains qui ont vu dans les confinements successifs l'occasion de revenir à eux-mêmes, d'arpenter leur intériorité calfeutrée, les habitants du 11 bis rue Vinclair, eux ne retrouvent d'intériorité que quand ils retrouvent l'extérieur, que quand ils retrouvent le dehors, que quand ils retrouvent les autres. Bon, et là, j'avais pour ce jeu-là un autre. D'autres compagnons, notamment John Donne, le poète anglais, l'un de ses poèmes qui s'appelle La Corona. J'avais encore pour règle, pour principe de jeu, de faire entrer le monde dans les chambres. Je m'étonne.
Ce qu'on retrouve dans La vie mode d'emploi.
Oui, oui, mais alors avec d'autres, bien sûr, il y a ce jeu-là, mais c'est un autre enjeu, puisque vous voyez là, ce qui se passe, c'est qu'on a été, une fois de plus, cette crise a. Déployé à l'échelle mondiale et en même temps nous a enfermés, nous a séparés. Et curieusement, son traitement par la fiction jusqu'à présent, en France comme à l'étranger, son traitement en passe par une focale un peu étroite. C'est-à-dire que la pandémie est réduite au confinement dans tel ou tel pays. Le confinement, à son tour, a une sorte de toile de fond, en fait, pour des histoires de couple ou de famille, comme si c'était juste une sorte de. Voilà, de petits laboratoires où faire varier la psychologie, la psychologie névrotique, plutôt qu'une projection violente dans une réalité inédite. Donc je voulais déconfiner, voyez, déconfiner le traitement de la pandémie, rendre justice d'une certaine façon à sa démesure, et donc la diffracter à travers, alors là, évidemment, Pérec, une multitude d'histoires, une multitude de personnages, ouvrir en fait cette affaire-là aux confins.
Alors, je comprends comment là, Georges Pérec et La vie mode d'emploi est effectivement intervenu pour vous, Gwenaëlle Aubry, notamment à ce moment-là d'écriture, de création littéraire. Tout le monde n'est pas écrivain. Je vous reposerai cette question-là. Mais avant, j'aimerais, pour les auditeurs et les auditrices, qu'on entende justement un petit peu de cette prose de Pérec. C'est un extrait du chapitre 70 et on y retrouve ce fameux motif du puzzle.
Après être passé par tous les degrés de l'anxiété et de l'exaspération contrôlée, Barthelbus atteignait une sorte d'état second, une stase, une espèce d'hébétude tout asiatique, peut-être analogue à celle que recherche le tireur à l'arc. Un oubli profond du corps et du but à atteindre, un esprit vide, parfaitement vide, ouvert, disponible, une attention intacte mais flottant librement au-dessus des vicissitudes de l'existence, des contingences du puzzle et des embûches de l'artisan. Dans ces instants-là, Barthelbus voyait sans les regarder les fines découpes de bois s'encastrer très exactement les unes dans les autres et pouvait, prenant deux pièces auxquelles il n'avait jamais prêté attention, ou dont il avait peut-être juré pendant des heures qu'elles ne pouvaient matériellement pas se réunir, les assembler d'un geste. Cette impression de grâce durait parfois plusieurs minutes, et Barthelbus avait alors la sensation d'être un voyant. Il percevait tout, il comprenait tout. Il aurait pu voir l'herbe pousser, la foudre frapper l'arbre, l'érosion meuler les montagnes comme une pyramide très lentement usée par l'aile d'un oiseau qui l'effleure. Il juxtaposait les pièces à toute allure, sans jamais se tromper, retrouvant sous tous les détails et artifices qui prétendaient les masquer, telle griffe minuscule, tel imperceptible fil rouge, telle encoche au bord noir qui lui aurait, de tout temps, désigné la solution s'il avait eu des yeux pour voir. En quelques instants, porté par cette ivresse exaltante et sûre, une situation qui n'avait pas bougé depuis des heures ou des jours et dont il ne concevait même plus le dénouement se modifiait du tout au tout. Des espaces entiers se soudaient les uns aux autres. Le ciel et la mer retrouvaient leur place. Des troncs devenaient branches, des oiseaux vagues, des ombres goémons.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Gwenaëlle Aubry, nous venons d'entendre un extrait du chapitre 70 de La vie mode d'emploi de Georges Perec qui est paru en 1978 avec ce personnage de Barthelbus, personnage incroyable avec Gaspard Winkler, on en a parlé, mais aussi avec le peintre Valène. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi parle la vie mode d'emploi? Parce que vous nous avez expliqué comment Pérec, vous l'avez découvert, comment il continue à irriguer à votre pensée, à insuffler votre pensée, notamment dans votre dernier roman Zone Basse Vie. Mais de quoi ça parle en fait? Est-ce que ça parle que de puzzle?
Non, ça ne parle pas que de puzzle. Je ne suis pas sûre que ça parle d'une chose. Enfin, je ne pense pas qu'un roman parle d'une chose. Voilà, c'est pas un sujet et encore moins un roman aussi pluriel que l'est celui-ci. Là, ce dont parle le texte, je crois, hein, qu'on vient d'entendre, mais justement, c'est de l'écriture. Vous voyez, c'est de cet état d'absence à soi dans lequel on est quand on écrit, d'absence à soi et en même temps de présence extrême aux autres et au monde. La vie mode d'emploi s'ouvre d'ailleurs sur une citation de Jules Verne, de Michel Strogoff, « Regarde, de tous tes yeux, regarde. Regarde, de tous tes yeux, regarde. Mmh. » Bon. C'est ce que fait Barthelbus là, dans l'extrait que l'on vient
d'entendre. Mais il regarde des pièces de puzzle.
Alors justement, oui, parce que Barthelbus n'est pas écrivain. Barthelbus est un faiseur de puzzle. Il a voué sa vie à un projet insensé et vain qui consiste à peindre 500 marines tout autour du monde, les faire transformer en puzzle, en puzzle par Gaspard Winkler, voilà, reconstituer les puzzles puis les détruire. Donc partir du rien pour revenir au rien. D'ailleurs, la suite de l'extrait que l'on vient d'entendre évoque des moments de découragement, d'accablement. D'autant que le projet de Bartel Booth échoue, est mis en échec par Gaspard Winkler qui lui tend un piège sur l'un des tout derniers puzzles, le dernier puzzle que Bartel Booth va tenter de reconstituer. Une pièce manque qui a la forme d'un X, or Bartel Booth tient dans sa main un W. Mais je crois que ce...
Qui renvoie d'ailleurs à un autre texte de
Qui renvoie Pérec. À W ou un souvenir d'enfance où Winkler est déjà présent. C'est un monde se tisse aussi, évidemment, entre les différents romans de Pérec. Mais justement, précisément, le piège tendu par Winkler à Bartel Booth, c'est le piège de la vie. Et donc aussi de la création et de l'écriture.
Pourquoi le piège de la vie? Quel piège
Parce
de la vie?
Parce que la mort, ce serait le puzzle achevé. La mort, ce serait le puzzle inexorablement achevé. Quand on écrit, il manque toujours une pièce. Il manque une case dans l'immeuble de la vie mode d'emploi.
Il y a 99 chapitres alors qu'il y aurait dû en avoir 100.
Il y a une case vide, comme le coin du petit Beurlu dévoré par la petite fille, image que j'ai reprise aussi dans Zone Basse Vie. Il manque une case, il manque une pièce, il manque une lettre. Et c'est pour ça qu'on continue et qu'on recommence. Parce que
donc elle est nécessaire, cette absence.
Cette absence est nécessaire.
C'est pas un trou, c'est pas un manque.
C'est un manque, mais qui devient moteur. Je crois que Pérec a... Ce qu'il y a de bouleversant chez Pérec, ce qui fait qu'on peut éprouver pour lui cette tendresse dont je parlais, cette tendresse dont Bolaño parle aussi, c'est qu'il y a chez lui cet effort permanent pour transformer le manque en moteur, pour transformer le vide en foisonnement, pour transformer justement la lettre absente en principe de jeu. En témoigne évidemment la disparition. Ce roman écrit sans eux, sans la lettre E, ce E si souvent muet, mais aussi sans eux, EEX, ses parents. C'est un roman qu'on lit comme un polar absolument virtuose et prenant, mais qui, à travers cette histoire de lettre interdite, parle en fait de la mort des parents de Pérec, parle de la Shoah, parle de ce qui aurait dû le laisser, lui, interdit. Incapable de dire, incapable d'écrire, mais contre quoi il a lutté. Pérec n'est jamais dans la mélancolie, n'est jamais dans le pathos. Et c'est à travers cela qu'il est en fait le plus fidèle à ses morts. C'est-à-dire justement en relançant la vie qu'ils lui ont transmise. C'est d'ailleurs ce que dit cette phrase magnifique que j'avais placée en exergue de personnes. L'écriture et le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Pérec tient sans cesse les deux.
Mais les parents de Pérec, sa mère est morte dans les camps, son père a été tué sur le front, donc il a été vraiment orphelin, arraché à ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Le manque, l'absence, elle est claire. Qu'en est-il, par exemple, pour nous? C'est quoi cette absence? C'est quoi ce manque?
Ah, moi, je pense qu'on a tourné...
On en a tous un.
On a tous un, forcément. Bien sûr qu'on en a tous un. On en a tous un et on... Voilà, et on abrite tous plusieurs enfants. Enfin, vous voyez, ce qui est très beau chez Pérec, c'est que c'est cette espèce de jeu, là encore, entre l'orphelin et l'enfant magnifique. C'est comme s'il n'était devenu adulte et écrivain que pour inventer un compagnon de jeu à l'enfant qu'il a été. Et je crois qu'on écrit aussi pour ça, pour inventer un compagnon de jeu à l'enfant qu'on a été.
Et cette manière de jouer, de s'accompagner, de se créer un compagnon de jeu, est-ce que c'est pas une manière de combler un vide, mais presque de manière... Vous voyez, de parler beaucoup, surtout que la vie mode d'emploi, c'est des centaines de pages, je l'ai dit, c'est 99 chapitres, c'est l'idée d'une exhaustivité, de liste, d'inventaire, d'embrasser tous les genres. Vous l'avez dit, il y a de l'épopée, il y a du policier, il y a du fait divers, il y a de l'analyse, il y a des recensions, il y a des pubs. Il y a tout ça dans la vie mode d'emploi. On l'a entendu aussi dans l'archive de Pérec, il dit « je voulais tout embrasser, je voulais quelque chose de gros ». Est-ce que c'est pas aussi opposé du plein, mais un petit peu vain dans une dimension un peu totale, mais vaine, à du vide. Ça remplacera jamais le vide, ça remplacera jamais des parents.
Je crois, il ne cherche pas à combler, il ne s'agit pas de combler. Il s'agit, une fois de plus, de transformer l'absence en principe de jeu et en principe d'invention. Et de reconstruction. Enfin, je veux dire, on n'écrit pas pour forcer l'absence ou la lettre absente dans un livre, la façon dont Bartol Booth cherche à forcer son W dans la case manquante du Y. On écrit, je crois, pour reconstruire, pour remettre en chantier, pour donner aussi une autre forme au monde. C'est la question de la forme est quand même fondamentale et ça n'est pas du formalisme, voyez. Une forme nouvelle, c'est un instrument de capture. C'est un instrument qui permet de piéger le réel, mais qui permet aussi de s'en libérer, à la fois en le déjouant et en le rejouant. Je crois, et ça c'est aussi Pérec est l'un de ceux qui me l'ont appris et qui nourrissent cette croyance, je crois que dire le réel, dire le monde sous une forme habituelle, c'est s'y habituer. Vous voyez, c'est s'y conformer, c'est s'y résigner, c'est s'y résoudre. Bon. Alors qu'à l'inverse, le dire sous des formes à chaque fois nouvelles, donc sous des formes à chaque fois joueuses, c'est y injecter, y insérer, malgré tout, du possible, des alternatives. Rappeler que ce réel pourrait être autrement. Et d'une même, là encore, le remettre en branle. Bon. Et ça, oui, bien sûr, c'est la leçon de Pérec, c'est la leçon. Si quelqu'un n'était pas donneur de leçons, c'était bien lui.
Mais c'est ça qu'on peut garder de lui.
On hérite de ça. D'autres choses encore, mais ça, c'est bien sûr un héritage, un fondamental. Fondamental parce qu'il est très actif. Voyez, parce qu'effectivement, on peut se mettre à sa table de travail, réfléchir à des questions de construction, et puis voilà, parce qu'il a été là, comme Calvino, que j'aime beaucoup aussi, bon, parce qu'il a été là, on va s'autoriser à jouer. Et une fois plus, ça n'est pas du formalisme. Enfin, voyez, d'une certaine façon, moi, l'accusation de formalisme, je pense qu'on pourrait la renvoyer à ceux qui, justement, font confiance aux vieilles formes usées, aux constructions académiques, aux phrases toutes faites, aux clichés, à tous ces filets, aux mailles un peu lâches. Non, une forme nouvelle, ça permet de s'emparer d'une zone de réel qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été explorée.
Ben justement, on va entendre la voix de Raymond Queneau, un des cofondateurs de l'Oulipo auquel appartenait Georges Perec. En tout cas, il en était proche. Et d'ailleurs, Georges Perec dédie la vie mode d'emploi à Raymond Queneau.
On a essayé de trouver une définition de ce qu'on veut faire. Mais par exemple, on peut dire c'est de rechercher les possibilités esthétique, enfin, ou artistique, ou littéraire, que peuvent fournir des méthodes scientifiques.
Pouvez-vous dire dans quoi il consiste ?
Oui, alors il y a par exemple l'application d'une méthode dite S+7, c'est-à-dire qui consiste à remplacer un substantif par le septième qui suit dans le dictionnaire.
Vous pourriez en donner un exemple ?
En voilà un. Alors je l'ai fait deux fois. Deux fois, une fois avec le nouveau petit Larousse illustré, l'édition de 52, et avec la liste des 1300 mots du français élémentaire qui a été publiée en 1954. Dans des hexacorallières d'affouillement, un typhon de 26 anacardiers, chapelle molle avec corégone remplaçant la rubiacée, couchant trop long comme si on lui avait tiré dessus. En français élémentaire, ça donne E. Alors, dans l'S+7, dans une huile d'allumette. Un vapeur de 26 appartements, chauffage mou avec du coton remplaçant le sang, couvre trop longue comme si on lui avait tiré dessus. Les grands-mères descendent. Le vapeur en regard s'irrite contre un wagon et lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tribunal pleurnichard qui se veut méchant, comme il voit une plante libre, se précipite dessus. Deux huiles plus tard, etc.
Les résultats obtenus avec le prince élémentaire sur le plan poétique, sont incomparablement supérieurs.
Oui, certes. C'est beaucoup plus surprenant, en effet. Oui.
Le 11 janvier 1962, Raymond Queneau en entretien avec Georges Charbonnier. Vous parliez d'invention de forme, Gwenaëlle Aubry. Là, on entend un exemple d'invention de la forme, mais ça n'est pas du formalisme. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur cette distinction, sur la distinction entre forme et formalisme, mais surtout, en fait, qu'est-ce que ça veut dire inventer des formes? Est-ce que moi, là, Gwenaëlle Aubry, je peux décider d'inventer une forme dans le langage qu'on a, dans la conversation qu'on a?
Oui, pourquoi pas, allons-y.
Oui, plus 7, mais il faudrait faire des calculs, il faudrait qu'on mette en place d'ailleurs des règles, toutes les deux.
Il faudrait qu'on s'amuse. Enfin,
oui, qu'on joue au même jeu.
Voilà. Qu'on joue ensemble, mais bon, c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de faire.
Enfin, oui, j'espère.
Oui, enfin, moi j'ai beaucoup de réserves, vous voyez, envers tous les discours sur les privilèges d'artistes ou de... Et Queneau et Pérec ne sont vraiment pas dans ce type de posture-là. Vraiment, il faut entendre ce dont il est question quand on parle d'enfance et de jeu. Et puis, il faut rappeler que là, on parle quand même d'écriture, c'est-à-dire qu'on parle de littérature, c'est-à-dire qu'on parle d'un art extrêmement pauvre. C'est ça la grande beauté quand même de la littérature.
Tout le monde peut en faire, c'est ça.
C'est pas que tout le monde peut en faire. Pauvre, ça veut pas dire facile, vraiment pas. Mm-hmm. C'est pas facile. Ça veut dire qu'on travaille avec un matériau qui est usé, très usé, et qu'on use soi-même d'ailleurs dans la conversation ordinaire, dans le langage courant. On travaille avec ce matériau-là et en plus on n'a pas besoin de grand-chose. Enfin, on n'a pas, voilà, pas besoin de producteur, pas besoin de... Bon, bref. Après, on la travaille, cette langue, pour en faire surgir autre chose, avec... Voilà, tel ou tel. Alors là, en l'occurrence, on entend Queneau parler de méthode.
Là, ça semble très formaliste pour le coup.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, moi, je peux vous parler de la façon, vous voyez, la façon dont j'essaye de travailler. Oui. Bon, une fois de plus, c'est le réel qui est premier. C'est quelque chose du réel que j'essaye de saisir et que j'essaye de saisir pour lui renvoyer sa violence d'une certaine façon. Hein, je crois que c'est quand même ça qui est en jeu.
Donc, par exemple,
ce mouvement de relance. Bon.
Donc, par exemple, la pandémie.
Par exemple, la pandémie, dans mon dernier roman. Oui, c'est un exemple qui est quand même assez. Parce que là, pour le coup, une fois de plus, l'immobilité, la menace était forte. Bon. Relancer un réel de plomb. Et ce réel, on s'en empare à différentes échelles. Bon, il y a l'échelle de la phrase. Il y a une très grande jubilation déjà à cette échelle-là, parce que je crois, et c'est aussi ce qu'on entendait dans le précédent extrait, hein, le passage sur Bartle Booth. Voilà, je le disais tout à l'heure, quand on écrit, on est dans une grande absence à soi, qui est en même temps une grande présence au monde et aux autres, mais qui est aussi une grande porosité à toutes les voix que l'on porte en soi, à toutes les voix que tout le monde porte en soi. Pas uniquement les écrivains, les écrivaines, mais les lecteurs, les lectrices. Simplement, ces voix, pour les entendre, il faut un peu se taire, il faut un peu cesser de parler. Il faut accepter de se laisser traverser par elles. Elles voyagent, voilà. Elles voyagent à l'intérieur de nous tous. Bon. Et parce qu'elle a quelque chose de très profus, c'est vrai que pour fonctionner normalement, en société, ou pour être une personne un peu constituée, un moi un peu identifiable, il vaut mieux les faire taire. Bon. Écrire, mais pas simplement écrire. Je pense que tout geste de création passe par là. Écrire, ça veut dire d'abord accepter de les écouter. Accepter de les laisser affleurer. Accepter le fait que, justement, on n'est pas confiné à l'intérieur de soi. Que l'intimité n'est pas verrouillée. La chambre à soi depuis laquelle on écrit, ça n'est pas un lieu confiné. Hein. Elle est ouverte à quatre vents. Elle est ouverte une fois de plus à tout ce qui vient, tout ce qui bruise, tout ce qui gronde, tout ce qui murmure, tout ce qui gémit à l'intérieur de nous tous. Bon, après, c'est vrai que ces voix-là, on les ressaisit quand on écrit. On les ressaisit sous un rythme, sous un souffle, sous ce qu'on appelle un style, qui sont, je crois, quelque chose comme une respiration première. Vous voyez, vraiment comme une pulsation organique. Je crois qu'écrire, c'est ressaisir à même son corps cette expérience de la dépossession, de la dépersonnalisation. Et que la jubilation, la grande joie, parce qu'il faut quand même parler de ça, on l'entend dans la voix de Pérec, on l'entend dans la voix de Queneau, la jubilation tient à ça.
Comme la jubilation d'ailleurs de Barthelbus, qu'on entend tout
alors,
à coup.
Oui, mais Barthelbus, il a cette espèce d'extase, mais après, dans la suite du texte, ça ne va plus du tout.
Si on s'en tient à cet extrait, il y a quand même ce moment presque de grâce, il le dit,
de grâce.
Où quelque chose se produit. Oui. Mais j'aimerais savoir, Gwenaëlle Aubry, comment on sait, parce que vous nous décrivez cette méthode de travail, d'écriture.
C'est pas vraiment une méthode, hein, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience, et c'est une expérience qui est très opaque.
Qui est difficile à restituer, sinon il s'agirait juste de l'appliquer pour
c'est
finalement...
C'est le contraire d'une méthode.
Mais à quel moment on sait qu'on a créé une nouvelle forme? Vous voyez qu'il y a quelque chose où on n'est pas... Vous l'avez dit, le langage, c'est un outil qui est usé. Donc, comment on sait qu'on a déjoué des clichés, qu'on a créé un jeu nouveau, qu'on a saisi le réel?
Alors, la forme, pour moi, elle préexiste à l'écriture. C'est-à-dire que il faut qu'elle soit là pour que je commence un nouveau roman. Et je sais qu'elle va être motrice quand, autour d'elle, justement, ça commence à ça s'agrège. Quand ça quand les pièces du chantier commencent à se mettre en place, quand elle a justement cette espèce de pouvoir d'aimantation, vous voyez, c'est un aimant en fait. Une fois de plus, c'est pas une structure vide pour moi. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'aimant, de l'ordre c'est très magnétique. Bon, après, on travaille. Enfin, je veux dire, une phrase, ça se...
Mais il y a plein de gens qui travaillent. J'imagine qu'il y a plein d'écrivains qui travaillent et qui ne font pas, peut-être ne parviennent pas à créer de nouvelles formes, vous voyez?
Mais je sais pas comment, enfin.
Oui. C'est difficile, vous voyez, à distinguer.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on écrit, le problème, c'est qu'en fait, la page, elle n'est jamais blanche. Deleuze dit ça quelque part, et c'est très drôle. Il dit cette histoire de page blanche...
C'est un mythe.
Oui, il dit même plus que ça. Il dit que c'est d'une bêtise totale, en fait. La page n'est jamais blanche. En fait, elle est beaucoup trop pleine. Elle est pleine de quoi? Elle est pleine, justement, de tous les clichés, de toutes les phrases toutes faites, de toutes les astuces, tous les petits... Enfin, vous voyez, les petites mécaniques, etc. Donc, il faut commencer par se débarrasser de ça. Et ça demande un effort. Je veux dire, ça prend. C'est pas paresseux, hein.
C'est pas
un jeu paresseux. Oui, bien sûr.
Mais comment se séparer justement? C'est-à-dire que bon, là, on parle de l'écrivain. Si je reviens, par exemple, à des situations plus ordinaires, plus quotidiennes, c'est presque impossible déjà de faire ce travail-là. C'est-à-dire, on voit le réel, cette violence dont vous parliez. On aimerait la ressaisir. On en parle à travers des conversations avec des amis, avec sa famille, on l'entend dans des discours politiques, mais tout est déjà presque dilué, en fait, dans les formes ordinaires du langage.
Je crois que chacun a sa... Comment vous dire? L'écriture, c'est quand on décide de gager sa vie sur elle, comme je l'ai fait, comme d'autres le font, c'est parce qu'on identifie là son instrument de survie. Il y en a sans doute d'autres. Mais il y a aussi tout ce qui se passe avant. Vous voyez, bien avant. Je veux dire, bien avant le travail sur la... Ce travail d'atelier, un peu, que j'essaie de décrire à l'instant. Je reviens à l'épigraphe de La vie, mode d'emploi, à cette phrase de Jules Verne. Oui. Regarde de tous tes yeux, regarde. Vous voyez, cette phrase-là, elle s'est mise... a sonné très fort pour moi pendant la pandémie. En fait, il m'est arrivé une chose étrange quand la vie normale a repris. Je marchais dans la rue soudain ressuscitée, et tout me paraissait prodigieusement intéressant. Les lumières, les visages, des bribes de conversation attrapées au hasard. Alors que jusqu'à présent, j'ai quand même beaucoup suspendu ma vie et mes romans à des instants de foudre, à des rencontres miraculeuses, à des hasards objectifs, comme disent les surréalistes. Et c'était ces instants-là que venaient dire dans mes romans les interruptions poétiques. Ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je pense que ça a profondément modifié mon rapport au roman. C'est-à-dire que tout à coup, l'ordinaire devenait miraculeux, devenait prodigieusement intéressant. Et donc cette phrase-là, « Regarde tous tes yeux, regarde », s'est mise à résonner très fort. Je l'ai placée dans la bouche de l'un de mes personnages, Manon Mernissi, l'avocate du deuxième étage. Et j'ai écrit un roman, pour moi, inhabituellement romanesque, au sens où il brasse de nombreuses histoires, de nombreux personnages, au sens où il cherche non plus à dire ce qui permet peut-être d'échapper au monde, mais à l'inverse, à retrouver le monde.
Les premières lignes de La vie, mode d'emploi de Georges Perec, ce sont celles-ci, c'est le chapitre 1, dans l'escalier. De ce qui se passe derrière les lourdes portes des appartements, on ne perçoit le plus souvent que ces échos éclatés, ces bribes, ces débris, ces esquisses, ces amorces, ces incidents ou accidents qui se déroulent dans ce qu'on appelle les parties communes, ces petits bruits feutrés que le tapis de laine rouge passé étouffe, ces embryons de vie communautaire qui s'arrêtent toujours au palier. C'est ça, tout regarder aussi, c'est aller au-delà de ces portes.
Oui, c'est tout regarder, c'est aussi tout écouter. Au-delà de ces portes, alors une fois de plus, elles s'ouvrent les portes dans La vie, mode d'emploi. Elles s'ouvrent, elles battent.
Mais on sait presque tout, même.
Mais
elle
est sous la, surface. Elle est. Voyez, l'un des enjeux que j'avais pour Zone Basse Vie, c'était comment mettre en roman, comment raconter les histoires. Les histoires, pas juste l'histoire, hein, d'une période qui, pour certains, ceux qui ont eu la chance d'être épargnés, s'est traduite justement par l'absence d'histoire et d'événements. Comment faire pour raconter ça? Eh bien, effectivement, en ouvrant les portes, en allant voir sous la surface, en allant voir ce qui se passe sous ces vies apparemment immobiles et stagnantes, en allant voir ce qui se déplace à l'intérieur quand on n'a plus d'extérieur. Qu'est-ce qui surgit à l'intérieur quand on est privé des autres, quand on est privé du monde? Qu'est-ce qui surgit? Voilà, chez beaucoup dans Zone Basse Vie, ce sont des hantises, ce sont des fantômes, mais pas seulement. Voilà, ça donc on va voir en dessous en fait.
Gwenole Aubry, je vous propose peut-être de nous lire quelques lignes de votre roman Zone Basse Vie pour qu'on comprenne justement ce travail de l'écriture, ce travail sur la forme, mais aussi, comme on le disait là, saisir quelque chose qui ne se disait pas ou qui ne se dit pas ou qu'on pensait figé.
Mado parle la première. Elle a toujours pris les devants. À Garel, ce matin de juillet 1943 où Georges, seul et furtif, jouait aux osselets dans le jardin des Segrets, assis en tailleur au pied de la haie qui séparait leur ferme de la belle maison au toit d'ardoise devant laquelle, la veille au soir, alors qu'il était déjà couché, il avait entendu une voiture s'arrêter, le corps d'un coup raidi, prêt à s'enfuir, aux aguets, jusqu'à ce que s'élève, réverbéré par un crépuscule aussi frais que la nacre d'un coquillage, l'onde flûtée d'une voix d'enfant. Ce matin-là, la même voix avait résonné derrière lui alors qu'il testait un tour difficile. « Comment tu t'appelles ?» Il s'était retourné, cascade d'osselets, et trouvé nez à nez avec, perçant la charmille qui fronçait autour de lui une corolle fluorescente, un petit visage pointu, un visage de faune au sourire édenté. « Georges Graffeuil », avait-il répondu, débitant d'un souffle l'histoire qu'on lui avait apprise en même temps que ce nom, fait mille fois répéter. Chaque soir, chaque matin, il se les récitait à mi-voix, le nom et l'histoire, avant les prières qui venaient les confirmer, et c'était comme enfiler un vêtement sans couture. Georges Graffeuil, on m'appelle Gégé, je suis le cousin de Michel et André, j'ai les poumons fragiles, alors je suis venu habiter à la campagne. Plissé par l'attention, les yeux du petit faune foraient dans le verre assis d'une fente bleue. froissement de branchages, et voici qu'à quatre pattes l'apparition prenait corps devant lui. Moi, c'est Madeleine, mais on m'appelle Mado. Je suis la fille de Jeanne et Paul, je suis en vacances, alors je suis venue passer l'été ici.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Gwenole Aubry, merci pour cette lecture d'un extrait de votre roman Zone Base Vie. Vous avez choisi ce moment, pourquoi ?
C'est le personnage de Georges, en fait.
Qui est un hommage à Pérec ?
Oui, c'est vraiment
super. Reprends le terme d'hommage.
Lui... Non, mais pour Georges, vous pouvez vraiment... c'est sur lui que j'ai en grande partie déposé ma vieille tendresse pour Pérec. Georges s'appelle Georges Soulevic, il porte comme nom de famille, le nom de jeune fille de la mère de Pérec. Georges est un ancien enfant caché qui retrouve son amour d'enfance, donc Mado. Il a connu la guerre, il sait, pour l'avoir connu, que la pandémie n'en est pas une. Il s'étonne de cette comparaison. Mais en même temps, cette période-là ravive chez lui, ranime des hantises, ranime une mémoire de cauchemar, à commencer par l'antisémitisme qui sous-tend le discours complotiste auquel adhère un autre habitant de mon immeuble, un autre personnage, Emmanuel Mulin. C'est comme si, vous voyez, cette période-là venait débusquer en lui l'ancien enfant caché. Et puis Georges est aussi un vieil helléniste qui...
Et ça vous touche?
Ça me touche parce que le grec fait partie de ma vie aussi. Et parce que Georges s'est réfugié, en fait, dans cette langue qu'on dit morte, pour fuir le monde. Et tout à coup, cet alphabet-là, cet alphabet à travers lequel lui-même se recomposait et à travers lequel il cherchait le graphe de sa petite enfance, à travers lequel il cherchait l'hébreu, cet alphabet-là vient nommer les différents variants du virus. C'est comme si cette langue à travers laquelle il cherchait à échapper au monde était tout à coup vissée, voyez, sur le monde. Et puis Georges porte aussi dans le roman le motif de la lettre absente. Ce motif... transmis par la Kabbale lurianique, cette idée selon laquelle une lettre manquerait à la Torah, peut-être aussi à l'alphabet divin primitif, une lettre dont l'absence serait la cause de tout le négatif, de tout le mal du monde dans lequel nous vivons. Évidemment, quand on écrit... quand on écrit, on a besoin. Enfin, moi, j'ai besoin de mythes, j'ai besoin de contes, j'ai besoin de légendes. J'ai besoin de me dire... que de livre en livre, je traque la lettre absente. Et vous voyez, ça n'est pas... Alors, c'est le nom, j'ai choisi d'intituler ainsi un recueil qui paraît dans quelques jours. Ça n'est pas une théorie, la lettre absente. Pas plus que ce recueil n'est un essai sur la littérature. C'est plutôt une façon... d'essayer de mettre des mots sur cette expérience dont on parlait tout à l'heure, sur cette expérience opaque de l'écriture, sur ce qu'elle mobilise d'affect, de sensations, d'espoir aussi. La lettre absente vient nommer, si vous voulez, l'espoir sans doute fou, démesuré, que je place dans l'écriture.
Mais c'est paradoxal parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut jamais finir le puzzle, il ne faut jamais trouver cette lettre absente. Donc la traque qu'on a à travers l'écriture ou à travers un puzzle ou à travers d'autres choses peut-être, en fait, il ne faut jamais les accomplir, sinon c'est la mort.
Oui. Et oui, on continue.
En fait, il ne faut jamais finir quelque chose.
Mais si, on peut finir des livres. Mais un livre fini, un roman fini, on en écrit un autre, et c'est bien comme ça.
Donc il y a une différence entre finir quelque chose et réaliser, ou un autre terme peut-être que réaliser.
Moi, je déteste finir un roman, pour tout vous dire. Je déteste ça. J'ai un plaisir immense à écrire aussi, même si c'est une dépense énorme. Parce que Parce que tout le temps de l'écriture, on construit autour de soi, quel que soit le livre qu'on écrit, on construit justement une maison. Pérec a passé son temps à s'abriter dans différentes maisons. D'ailleurs, le si beau rêve de Bolaño, le si beau texte de Bolaño, s'achève comme ça, ce récit de rêve sur Pérec. Le dernier mot de Bolaño, c'est, il dit à l'enfant Pérec, je te ramène à la maison. Et Bolaño finit, mais où était notre maison? Oui, où est notre maison?
Mais d'ailleurs, Pérec ne parle pas vraiment de maison, il parle d'espace. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas vraiment de cocon, qu'il n'y a pas vraiment de limite.
Bah, qu'il y a pas de... que ça n'est pas confiné, bien sûr que non. Bien sûr que non, la littérature est là. Enfin, si la littérature n'est pas un lieu où se déloger, vous voyez, c'est ce que dit Kafka, vous savez, écrire ne loge pas en soi. On n'écrit pas pour rester chez soi. On n'écrit pas pour s'enfermer dans une bulle sociale.
Tout comme on ne lit pas pour ça.
Et on ne lit pas pour ça, absolument. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. On écrit pour multiplier la vie, pour la vivre autrement et donc aussi avec les autres.
J'aurais pu faire des ménages, j'aurais pu vendre des fleurs, j'aurais fermé mon corsage, mis un cadenas à mon cœur. J'aurais eu une vie facile, des enfants et du respect, une jeune bonne, un Jules en ville. Mais il y a un mais, j'aime pas les robes à scandale, ni les diamants. J'aime pas les promenades à cheval, j'aime pas l'argent, les bagnoles qui coûtent trois briques, les parties de chasse en Afrique, les petits dîners sans couvert, à quoi ça sert? J'aime pas les cuisses de grenouille, j'aime pas le whisky, j'aime pas les plages où ça grouille, j'aime pas le ski. Qui fasse beau, qui tombe des lances, chaud ou froid, moi je m'en balance, parce que je vous l'avoue en somme, j'aime que les hommes. Si vous avez 50 piges, 3 mentons et les pieds plats, si vos cheveux font de la voltige, vous dégonflez pas pour ça. Ne déposez pas vos armes, ne pleurez pas le passé, ne regrettez pas vos charmes, faut pas être complexé. Moi j'aime pas la pêche à la ligne, j'aime pas le billard.
Magali Noël chante en 1964 « J'aime pas » cette chanson pour introduire cette séquence de fin d'émission. Gwenaëlle Aubry, nous avons parlé de votre amour, je peux peut-être dire amour de Georges Pérec, vous acquiescez. Parlons à l'inverse de ce qui ne vous plaît pas ou de ce que vous n'aimez plus. Ça en dit autant, je pense, que ces amours qui durent. Quel auteur, quel texte ne vous plaît plus?
Oui, plus, non pas, pas.
Enfin, voilà.
Dire, c'est un peu triste de parler de ce qu'on n'aime pas, surtout quand ce qu'on n'aime pas n'est pas forcément bon. En revanche, je crois, oui, c'est vrai qu'on apprend quelque chose du désamour et du désamour qu'on peut avoir parfois pour de très grands écrivains. Le désamour n'est pas non plus une expérience agréable, on préfère aimer. Mais c'est vrai que c'est une expérience que j'ai traversée, éprouvée, avec un très grand écrivain, Sebald. Sebald, que j'ai beaucoup lu.
Qui est un auteur allemand, notamment auteur d'Austerlitz,
Les Émigrants.
Ouais. Qui est beaucoup adapté d'ailleurs au théâtre récemment.
Oui, c'est vrai.
Mise en scène.
Oui. Moi, je l'ai lu, alors je le lisais beaucoup il y a une dizaine d'années, à l'époque où j'écrivais Partage, qui est un roman qui suit les chemins de deux jeunes filles de 17 ans, l'une israélienne, l'autre palestinienne, dans les rues de Jérusalem pendant la deuxième intifada. Partage est un roman sur les fantômes, sur la hantise. Et j'étais moi-même passablement hantée par Sebald, fascinée par... par sa phrase hypnotique, par les spirales, les méandres de sa phrase, fasciné vraiment au sens fort par ses photos en noir et blanc non légendées qui trouent ces textes et dans lesquels j'avais l'impression de tomber, à travers lesquels j'avais l'impression de passer justement du côté des morts et du côté des fantômes. Et puis, est venu un moment où, le relisant, j'ai eu l'impression que quelque chose manquait, que quelque chose me manquait, que je trouve à l'inverse chez ceux que j'aime, Pérec, Bolaño, dont on a parlé aussi, Plath, Ingeborg Bachmann, pour rester à ceux et celles que je cite dans la lettre absente, à savoir...
Qui est un de vos essais qui est sorti
donc,
récemment.
Donc cet essai dont on parlait tout à l'heure, et où je parle aussi, bien sûr, des écrivains et des écrivaines qui m'accompagnent, à savoir justement cette tension entre la mélancolie, entre la sidération et, d'autre part, le désir, la relance vitale. Cette tension qu'on trouve formulée dans cette phrase magnifique de Pérec que je citais tout à l'heure, l'écriture, cette phrase de W, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Okay. Pérec tient les deux pôles, ceux dont je viens de parler les tiennent aussi, le négatif, le positif, bon, ils tiennent ces deux pôles à main nue, et leurs œuvres sont comme électrisées par cette tension. Ceux qui ne sont que dans le positif, que dans le plein, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui sont dans le négatif, dans la mélancolie,
comme Zébald,
eh bien, je trouve que d'une certaine façon, ça ment aussi.
Alors, ça ment, vous avez
ça, dit. Oui, je trouve que ça ment. Je trouve que c'est mensonger. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, que je la lise ou que je l'écrive, je dois l'avoir dit déjà mille fois aujourd'hui, mais c'est parce que c'est tellement important, c'est la relance. Vous voyez, c'est vrai que mes personnages, je les prends souvent à un moment où ils tombent, mais ils se relèvent. Il ou elle, c'est souvent elle, se relève.
Il n'y a pas de complaisance dans la douleur.
Non, surtout pas. Je déteste le pathos, je déteste tout ça. Mais aussi parce que la vie ne s'éprouve jamais plus puissamment que quand elle se retrouve. Et parce qu'effectivement, je déteste. Je déteste. Je n'aime pas l'élégie, je n'aime pas le pathos et je n'aime pas.
Et puis il y a plus d'humour quand même chez Pérec. On n'a pas parlé de l'humour, mais il y a quelque chose quand on parle du jeu, il y a
oui, parce que ça va tellement de soi. Mais vous avez raison, il faut le dire. Il faut parler d'humour, il faut parler de fantaisie, il faut parler de grâce aussi. Parce qu'il y a quand même une grâce suprême à transformer en jeu et en un jeu complètement ouvert où tous les autres peuvent trouver leur place, où le lecteur peut trouver sa place, parce que le lecteur de Pérec, il est appelé à être formidablement actif. Il y a une grâce extrême à transformer en jeu ce qui, une fois de plus, aurait dû être pur silence et pur écrasement.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Aubry. Vous, on peut lire votre roman Zone Basse Vie qui vient de paraître aux éditions Gallimard et votre essai aussi La Lettre Absente aux éditions du Nez de Pie. La Lettre Absente aux éditions du Nez de Pie et non pas du Nez de Pie. Un grand merci donc à vous Gwenaëlle Aubry, mais aussi à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Grégory Wallon à la prise de son. Pour réécouter, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission Le Souffle de la Pensée ou sur la toute nouvelle application de Radio France. Lundi, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'Avec Philosophie et il sera question des philosophes qui n'ont pas écrit.